8h18, suite des matins sur France Culture. Oui, c'est bien France Culture parce que en cette période un peu particulière, nous diffusons les journaux de nos camarades de France Inter. Et la preuve que vous êtes sur France Culture, c'est que je suis en compagnie de Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Votre billet politique, quand le politique se réfugie derrière le scientifique.
Oui, si vous lisez régulièrement les pages débat des journaux, vous êtes sans doute déjà tombé sur des tribunes dénonçant, je cite, le gouvernement des juges ou bien le gouvernement des technocrates. Alors verra-t-on bientôt les mêmes protestations contre le gouvernement des scientifiques? C'est frappant, depuis le début de cette crise, le discours politique s'appuie sur la science, bien sûr, mais il s'abrite aussi derrière elle. Ce fut encore éloquent hier soir sur TF1. Le Premier ministre n'a quasiment pas dit une phrase sans se placer sous l'autorité des médecins présents en plateau, des spécialistes, des infectiologues, des épidémiologistes, auxquels Édouard Philippe a même renvoyé la balle quand il ne savait pas répondre précisément à une question. Ce phénomène s'observe d'ailleurs depuis le début de la crise. Souvenez-vous de la première allocution d'Emmanuel Macron. Il a cité à 5 reprises les scientifiques, soit le même nombre de fois que le Parlement. Le président a d'ailleurs justifié le maintien des municipales par les recommandations des spécialistes. Emmanuel Macron est dorénavant entouré, d'ailleurs, vous le savez, d'un conseil scientifique et d'un comité d'analyse, des structures nouvelles qui semblent presque devenues la réunion des oracles de la République. Il décide, le gouvernement exécute, cela donne en tout cas ce sentiment, signe d'ailleurs de cette confusion des rôles. Le professeur marseillais Didier Raoult est désormais testé par les instituts de sondage parmi les personnalités politiques. Voilà au moins des tests dont on ne manque pas.
Effectivement. Alors comment la relation entre les médecins et les gouvernants en est-elle arrivée là ?
Alors deux explications. La première, la plus simple, nécessité fait loi. On fait appel aux chercheurs parce qu'ils sont compétents face à cette crise inédite, bien sûr. Mais à mon sens, ce phénomène illustre aussi le formidable discrédit qui frappe la parole politique. Si le dirigeant s'abrite derrière le médecin, c'est parce qu'il sait que ce dernier sera davantage cru, davantage écouté et davantage suivi. On garde d'ailleurs en mémoire cette supplique du ministre de la Santé à la télévision. Olivier Véran demandait aux Français de respecter les gestes barrières avant d'ajouter cette phrase stupéfiante à l'adresse des téléspectateurs. Si vous ne m'écoutez pas moi, écoutez au moins les soignants qui préconisent ces gestes barrières contre l'épidémie. Le langage politique qui appelle à la rescousse, le langage scientifique, comme si le premier était devenu inaudible, comme si le second était devenu infaillible.
Bon, mais qu'est-ce qui vous gêne là-dedans, Frédéric ?
Alors c'est vrai, on pourrait se dire très bien, c'est un juste retournement des choses. Après tout, pendant des années, la politique a monopolisé la parole, de préférence sur des sujets qu'elle ne maîtrisait pas toujours. On pense à ses ministres passés des finances à la défense, de l'agriculture au sport. Ouf, enfin, un peu de rationalité. Sauf que, ce n'est en fait pas si rationnel si on y réfléchit. D'abord parce que le cliché du politicien qui serait forcément tordu et du scientifique qui serait forcément pur et parfait est bien sûr inexact. Les chercheurs, les médecins ne vivent pas en dehors du monde. Et parmi les hauts scientifiques, conseillers du pouvoir, il serait candide d'imaginer qu'il n'existe pas d'affect, pas de phénomène de cour, pas d'affrontement de personnes ou d'école de pensée. Bref, ce cliché vole en éclats. Ensuite, c'est un mauvais calcul parce que le discours scientifique, lui aussi, souffre de remise en cause, lui aussi souffre de la défiance qui touche les élites, ce que certains appellent déjà le populisme médical. Avoir un diplôme de médecin et une blouse bleue n'est pas suffisant, n'est plus suffisant pour être cru sur parole. Enfin, parce que cette confusion, Guillaume, semble rétrécir encore un peu le champ de l'action politique.
Mais c'est-à-dire ?
Elle donne l'impression que le gouvernant est presque passif, qu'il n'est qu'une sorte de secrétaire chargé d'observer la fumée blanche du conclave des experts, habemus confinement. Or, la décision politique, c'est bien plus que cela, naturellement, y compris dans cette crise sanitaire. La décision politique, elle doit prendre en compte l'expertise scientifique en priorité, bien sûr, mais elle doit aussi composer avec la psychologie collective, avec les risques de panique, la continuité de l'approvisionnement, les contraintes diplomatiques, la dimension budgétaire, et on en passe. Le scientifique éclaire le preneur de décision, il ne peut se substituer à lui, sinon c'est le règne de la défausse. Vous vous souvenez de ce mot ? La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires. Eh bien, la conduite d'un pays en temps de pandémie est une chose trop grave pour être laissée aux épidémiologistes, fussent-ils de classe mondiale. L'action politique, au sens noble du terme, ne peut se faire ni par défaut, ni par défausse.
Merci beaucoup Frédéric Seyss pour ce billet politique. On va faire réagir notre invité à ce que vous venez de dire, notre invité Dominique Méda. Il est 8h23 sur France Culture.